Alors nous avons cet après-midi notre dernière instruction.
En
début d'après-midi, nous avons vu deux fois la prière. Le dialogue avec Dieu. Et maintenant, nous allons avoir aujourd'hui et demain à son écoute. C'est-à-dire lorsque Dieu nous parle, ce qui essentiellement est avec la parole de Dieu. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu ce sujet de s'approprier la parole de Dieu. Qu'est-ce que veut dire le mot en français s'approprier? Littéralement, ça veut dire devenir propriétaire. Alors, naturellement, la parole de Dieu, c'est à Dieu. Mais s'il nous l'a donné, ce n'est pas pour qu'on la laisse dans un coin sur une étagère. Mais c'est pour que nous l'intégrons dans nos vies. Lorsque l'on prie Dieu différents sujets, il peut nous répondre par les circonstances. Il peut nous répondre par une conviction intérieure. Mais là, on peut se tromper comment on comprend notre conviction intérieure. Et il nous parle surtout par la parole de Dieu. Et là, on est sûr que c'est juste. C'est pour ça que c'est tellement important de sonder la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi lire la Bible. Et comment lire la Bible. Alors pourquoi lire la Bible? Nous allons continuer avec un verset dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 5, verset 39.
Jean 5, verset
39. Là, nous voyons qu'il faut sonder. Qu'est-ce qu'une sonde? Normalement, une sonde, par exemple, ça se pratique dans la marine. Lorsqu'on veut voir à quelle profondeur nous sommes dans un bateau, si on s'approche du bord, on aimerait savoir s'il y a peut-être des rochers dangereux. Alors autrefois, on mettait une grosse pierre attachée avec des câbles. On descendait du bateau progressivement jusqu'à ce que ça touche le fond de la mer. Et comme ça, on sondait la profondeur. Alors ce verbe, on peut l'appliquer aussi dans le domaine spirituel. On va chercher à connaître la profondeur de la Bible. Ce que Dieu veut nous dire par sa parole. On a donc, comme dit le verset, reçu la vie éternelle.
Alors on va connaître mieux le témoignage qui nous est donné dans la Bible. C'est comme une découverte qu'il est nécessaire de faire. Un deuxième verset dans l'évangile de Luc. Chapitre 24, verset 27. Là, il s'agit après la résurrection du Seigneur. Il y avait les deux disciples qui étaient découragés et qui revenaient chez eux à
Emmaüs.
Le Seigneur s'est approché d'eux sans qu'ils le
reconnaissent.
Et il leur a expliqué les Écritures. En commençant par le début, les livres de Moïse. Ainsi que par les autres prophètes. Et il a expliqué les choses qui le concernent, c'est-à-dire qui concernent la personne de Christ. Eh bien, de la même manière, il désire aussi nous expliquer à nous que l'on puisse découvrir sa personne mieux à travers différents passages. Ensuite, après cette découverte, il faut voir que c'est aussi ce que Dieu veut. Dès le début, lisons un verset. Dans Josué,
chapitre 8. Ah oui, verset 8. Ok. Tu dis tout Joshua, chapitre 8, verset 20.
Là, nous voyons que Josué est sur le point de prendre la direction du peuple. Il faut conquérir le pays. C'est une entreprise difficile. Avec un peuple de 2 à 3 millions de personnes. Il n'est plus jeune. Il a probablement entre 85 et 90 ans. Mais il est craintif devant cette grande œuvre. Alors Dieu l'encourage de se fortifier. Et pour avoir de la force, il est nécessaire que ce livre de la loi se tienne près de lui. Il faut le méditer jour et nuit. Le matin, l'après-midi, même le soir tard, à chaque occasion possible. Même si à l'époque, il n'y avait pas du tout d'électricité, Josué est encouragé de lire quand il fait sombre avec des lampes toutes simples. Et le résultat, ça la fera réussir tes voix. Avec la Bible, Dieu va nous aider à accomplir les choses différentes de la vie. Donc, lire la Bible, c'est la volonté de Dieu. Un deuxième verset, nous retournons dans l'évangile de Jean. Chapitre chapitre 1 de Mwanda Mukulu,
versets 31 et 32.
Là, nous voyons l'importance de la parole de Dieu et de persévérer dans cette parole. Cette parole est la vérité de Dieu. Et c'est aussi cette vérité qui va nous affranchir. Affranchir, ça veut dire libérer de l'esclavage. Tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils sont esclaves. Esclaves du monde. Esclaves de leur vieille nature. Esclaves de l'ennemi, le diable qui domine le monde. Quand on est obligé de faire des choses, on est esclave. Mais la parole de Dieu, la vérité, nous donne d'être affranchis, d'être libérés de cet esclavage. Et chaque chrétien qui se convertit, chaque homme qui devient croyant en Jésus-Christ, il devient une position de affranchi, de libéré. C'est ce que Dieu désire pour nous, que nous soyons libres pour le servir et pour l'adorer. Et ceci va se mettre en pratique peu à peu. Et notamment lorsque l'on persévère à étudier la parole de Dieu. Maintenant, il faut acquérir justement une connaissance biblique. On continue de lire des versets. 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Alors il y a l'esprit du monde, la façon de penser du monde. On a dit avant que lorsqu'on pense comme le monde, l'esprit du monde, on est esclave du monde. Et de l'autre côté, il y a l'esprit de Dieu. qui nous éclaire comment comprendre les choses du point de vue de Dieu. Donc c'est quelque chose de très différent. Et c'est important que nous connaissions ces choses de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas fait ses enseignements d'après la sagesse des hommes. Mais selon l'Esprit de Dieu. Un autre aspect de cette connaissance dans la deuxième épître de Pierre. Chapitre
1, verset 21.
Donc ce que nous avons dans les mains, la parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre de personnes très sages ou très intelligentes, mais c'est vraiment le message de Dieu pour les hommes. Les prophètes, les différentes personnes qui ont écrit les livres de la Bible, ont parlé poussé par l'Esprit Saint. Ce que nous avons écrit, ça vient de Dieu vraiment. C'est pour ça que c'est un grand trésor. Et encore dans le même chapitre, le verset
19. Vence o adicomente tema. O apetelo. Sabe o mal.
Donc là, on voit que c'est important de faire attention à cette parole prophétique. D'être vraiment attentif. C'est pas juste un livre intéressant comme ça, à lire un petit peu de temps en temps. Non, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est comme une chambre la nuit, s'il n'y a pas de lampe, on ne voit rien. Ça, c'est l'état des hommes qui ne connaissent pas la Bible. Mais lorsqu'on commence à ouvrir une Bible et à être attentif à ce qui est écrit, c'est comme si on allume une lampe qui va briller dans nos vies. Qui va éclaircir la nuit dans laquelle on se trouve. Maintenant, pour que cela arrive, eh bien, il faut une nouvelle naissance. Tournons quelques pages en arrière à l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 18. Donc Dieu par sa parole, qui est la parole de vérité, il nous a engendrés. Donc il nous a donné sa vie pour être ceux que, qui sont régénérés pour une nouvelle vie. Et si nous sommes des croyants qui avons la vie éternelle, parce que nous avons lu la Bible, écouté la parole de Dieu et que nous avons cru à cela. On retourne quelques pages plus loin dans 1 Pierre 1. Cette fois, la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 23.
Chapitre 1, verset 23.
Donc la parole de Dieu va nous régénérer, va nous donner cette nouvelle vie. Et
ce
n'est pas une vie qui va s'arrêter et tout à coup stopper. Elle ne va pas se corrompre et mourir. Mais cette nouvelle naissance est incorruptible. Elle ne peut pas mourir. La plupart des substances dans ce monde, ça se dégrade au bout d'un moment. Après, il est parlé de l'herbe qui se fane rapidement. Ça sèche rapidement au soleil. La fleur tombe. Mais la parole de Dieu nous a régénérés de manière à ce que nous ayons une vie qui ne s'arrête pas. Une autre caractéristique de cette parole, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 4, verset 12. Alors la parole de Dieu, quand nous la lisons, elle va travailler en nous. Elle va nous révéler le profond de nous-mêmes. Même des choses dont nous ne sommes pas toujours conscients. Elle est comparée à une épée très aiguisée qui coupe très bien. Des deux côtés de l'épée. Et qui va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Nous savons que l'être humain est corps, âme, esprit. Le corps, c'est facile à comprendre. Le corps, c'est facile à comprendre, c'est ce qui est matériel. Mais l'âme et l'esprit, nous savons que c'est notre être intérieur. Mais c'est plus difficile à discerner qu'est-ce qui est l'âme, qu'est-ce qui est l'esprit. Alors la parole de Dieu, elle est capable de faire cette recherche tout au fond de nous-mêmes. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc, toute la profondeur de ce qui est au fond de nous. Pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Pourquoi est-ce que je veux faire ceci? Elle va aller vraiment nous poser la question tout au fond de nous. Je me souviens d'un exemple, il y avait un missionnaire dans une tribu, je ne sais pas dans quel endroit, qui ne connaissait pas la Bible. Et puis il leur a annoncé la Bible. Et puis le chef de cette tribu, si je me rappelle bien, il a dit, nous ne voulons pas de cette Bible. Le missionnaire a demandé pourquoi. Et il a répondu, parce qu'elle nous montre tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Il avait raison, la Bible, elle montre ce qu'il y a de au fond de nous. Et ce n'est pas toujours quelque chose de beau. Mais là où il avait tort, c'est de ne pas l'accepter. Chacun est ensuite responsable de refuser ou d'accepter. Deuxième épître à Timothée. Chapitre 3, verset 15.
Timote
mui beach. Chapter mui sat. Kenze.
Mwana wewe wakamanya mukanda wa nzambi. Ujumanye mwa kukubwisha mwenye mneji toro nukandu. Nukandu. Luafuwa wajita busha jamu kilisto yesu.
Voilà, Timothée avait un grand avantage. Dès l'enfance, il connaissait les Saintes Écritures. Il avait une maman juive croyante. Une grand-maman juive croyante.
Et
il avait déjà appris ce qui était à l'époque l'Ancien Testament. Tous ceux qui sont grandis dans une famille chrétienne, ils vont être encouragés à lire la Bible depuis l'enfance. Et c'est un grand avantage pour la vie. Et nous qui sommes parents et qui avons des enfants, c'est une grande responsabilité d'enseigner la Bible à nos enfants. Le monde va essayer de les distraire avec plein de choses. Et en Occident, en Europe par exemple, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'il y a des écrans partout. L'écran du téléphone. L'écran de iPad, de l'ordinateur, l'écran de la télévision. Alors autrefois il y avait seulement l'écran du cinéma. Alors les parents, ils disaient à leur enfant chrétien, tu ne vas pas au cinéma.
Mais
aujourd'hui, il y a beaucoup de cinéma dans chaque maison.
Et
c'est très difficile pour les parents de contrôler.
Ils peuvent
regarder des choses qui ne sont pas
mauvaises.
Par exemple, des émissions sur les animaux ou la nature.
Mais il
faut aussi regarder des films avec des choses mauvaises. Dans beaucoup de films, il y a ou bien la violence, ou bien l'immoralité, ou les deux. Il y a beaucoup de scènes d'intimité qui apparaissent dans beaucoup de films. Des choses qui ne sont pas faites pour être montrées à tout le monde. Et en plus, c'est rarement des personnes
mariées.
Et autrement, en plus, il y a beaucoup de guerres et de violences et d'attaques et de meurtres.
Dans
mon travail, je suis régulièrement dans des hôtels.
Et après
une journée de travail, avoir un moment de détente, j'allume la télévision. Alors, si vous allumez une chaîne de nouvelles, ils vont vous montrer une guerre, une explosion, un attentat. Si vous regardez des séries télévisées, il y aura très souvent un adultère ou un meurtre. Alors quand on est adulte, on peut garder une certaine distance.
Mais
quand on est enfant ou adolescent, on a tendance à tout prendre comme une éponge.
Et
ça, c'est dangereux parce que ça fait un lavage du cerveau. Si on ne les freine pas avec ça, petit à petit, ils vont trouver normal des choses mauvaises. Aujourd'hui, dans plus en plus de films, on voit à un moment donné deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble.
Et
c'est présenté comme si c'était tout naturel. Alors, pour des jeunes, ils vont trouver ça normal. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est une abomination. Une chose horrible. C'est pour ça que nous avons besoin de leur donner le plus possible la parole de Dieu. Et de les contrôler et de les freiner dans ce qu'ils regardent. Le point suivant s'appelle croissance et communion. Deuxième épître de Pierre, chapitre
3.
Verset
18.
Verset 18.
Voilà la conclusion de la deuxième épître de Pierre. Il faut grandir. Il faut grandir dans quoi? Dans la connaissance. Dans la connaissance de qui? De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, c'est quelque chose qui est valable pour nous. Jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne, nous n'aurons jamais assez de le connaître davantage. Et déjà comme enfant, on peut commencer à grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Dès que l'enfant sait lire, dès que l'enfant il sait lire, c'est important qu'il passe des petits moments à lire la parole de Dieu. Et nous les parents, nous avons la responsabilité de leur expliquer. Ce n'est pas toujours facile de comprendre
la vie,
mais de les guider dans la compréhension. Pour qu'ils connaissent le Seigneur Jésus très tôt. Et qu'ils aient envie de le connaître mieux. Jean 14, verset
23.
Là, nous voyons que, en lisant la parole de Dieu, il est nécessaire que l'on s'attache au Seigneur Jésus. Que nous ayons de l'affection pour lui. Que nous retournons quelque chose de son amour immense envers nous. Qu'il a fait qu'il nous a sauvés. Alors, aussi par amour pour lui, on va lire la parole. Non seulement on va la lire, mais on va la garder. Ça veut dire l'intégrer dans notre façon de penser. L'apprendre aussi à se rappeler de cette parole. Et la conséquence, c'est dit, mon père l'aimera. C'est dit, mais une chose magnifique, nous ferons notre demeure chez lui. Effectivement, Dieu, le Seigneur Jésus, il habite en nous d'une certaine façon. Par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Toujours dans ce même chapitre, verset
17.
Là, nous voyons que le Seigneur Jésus annonce le Saint-Esprit. Dans l'Évangile, ce n'était pas encore le temps de l'Église. Donc le Saint-Esprit était avec les croyants. Mais depuis Pentecôte, il est dans les croyants. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, il sera en vous. À ce moment-là, c'est encore futur. Ensuite, le verset
20.
Et le Saint-Esprit à ce moment-là nous fait comprendre, à nous qui sommes dans l'époque de l'Église, déjà la relation entre le Père et le Fils, que le Seigneur Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que nous serons dans le Seigneur Jésus, et que lui sera en nous. Donc cela nous donne une communion après la croissance, une communion avec Dieu. On continue à voir ces versets concernant la croissance et la communion.
Romains 15.
Verset
Inaï. L'homme dit comme il est à nous, vingt à mouinaï.
Wakaji qui voit, Wakoki qui voit pour le coup, Wakapé d'avance pour la tatou.
L'homme, chapitre dit comme il est mouitano, vingt à mouinaï.
Waman onso, à Rafun d'Abojambi, à Rafun Jibwa, Wakutuisha.
Donc là, nous voyons que toutes ces choses qui sont écrites, c'est pour que nous apprenions. Pour que nous soyons instruits. Et nous voyons que Cela va nous donner de la patience pour attendre dans les temps difficiles. Cela va nous donner aussi de la consolation ainsi qu'une espérance en pensant au retour du Seigneur. Il y a un psaume qui parle particulièrement de la parole de Dieu. C'est le plus long psaume. Est-ce que quelqu'un connaît? Oui, c'est le psaume
119,
c'est juste qu'il y a beaucoup. Alors, chacun peut le lire pour lui personnellement. On n'est pas obligé de le lire d'une fois. On peut le lire petit à petit. Mais il y en a spécialement, chaque verset parle de la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Nous lirons juste un petit verset, le verset
97.
Donc là, nous voyons qu'il est nécessaire aussi d'aimer la parole de Dieu. Comme ça, lorsque l'on...
Ou bien, il y a
peut-être le décalage
des versets. Combien j'aime ça.
Alors, j'ai pas d'introduction. Oui, c'est ça.
Mais tous les jours, l'objet de ma méditation.
Oui, c'est ça.
Peut-être dans d'autres versions, ça peut être avant ou bien après.
Oui, on dit d'abord.
On insiste peut-être. Moi, je le mets dans le bout de la main comme lui. Tu t'aimes ni sans bonbon. Ani, je m'en ai
Ujulon.
Ah bon. C'est toujours non enseigne. Ok.
Ça va bien.
Mais dis-moi combien, parce que tu vas faire des 20 sauts.
Donc, il est nécessaire d'aimer la parole de Dieu. Et pour cela, de la méditer. Nous voyons ici que ce psalmiste, il dit, je la médite tous les jours. Alors, on n'a pas tous les jours des vacances pour la méditer toute la journée. Mais c'est bien de prendre chaque jour au moins un petit moment pour la méditer. Et si possible, de temps en temps, de plus longs moments. Comme dans ce temps de la FBS, nous prenons plusieurs heures par jour. Prochain verset, Luc 11.
Verset
28.
Ok.
Donc on devient bien heureux aussi lorsqu'on écoute la parole. Il faut l'écouter et la garder. De nouveau, nous voyons qu'il est nécessaire non seulement d'écouter, mais aussi de la tenir. Qu'elle soit une partie intégrante de notre personnalité. Maintenant, un prochain paragraphe s'intitule La marche. Alors, lorsque nous méditons et nous gardons, nous écoutons la parole de Dieu, il doit y avoir des effets dans notre vie. Disons dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17.
Imaginez la Bible.
Merci. Alors là, nous voyons que l'écriture, elle est utile pour nous enseigner d'une manière générale, pour nous convaincre si nous avons des doutes, pour nous corriger si nous avons mal compris, pour nous instruire dans ce qui est juste. Des fois, on a une idée de la justice un peu déformée. Alors, on va comprendre ce qui est la justice selon Dieu. Et tout ceci dans le sens d'être accompli. Pas juste un tout petit peu accompli. Mais il est dit, le but c'est d'être parfaitement accompli. Et maintenant la fin pour toute bonne œuvre. Donc je ne vais pas rester à méditer la parole de Dieu toute ma vie dans une grotte. Je ne vais pas dans le désert toute ma vie me cacher, même si je suis avec la Bible. Il faut que je fasse aussi de bonnes œuvres.
Des
bonnes œuvres pour les autres. Des bonnes œuvres pour la famille de Dieu. Pour l'assemblée locale. Pour ma famille. Pour mes voisins. Pour mes compagnons peut-être d'école ou d'études ou de
classe.
Peut-être mes collègues de travail, mes clients. Il y a beaucoup de bonnes œuvres à faire. Mais ceci, cela va pas toujours être facile à voir, à accomplir. C'est pour ça que si nous méditons et nous sommes remplis de la volonté de Dieu par sa parole, cela va nous conduire à pratiquer ces œuvres. Jean 13, verset
5.
Là, c'est le Seigneur Jésus qui agit d'une manière étonnante. Dans le Proche-Orient, autrefois,
il y avait
beaucoup de poussière sur les chemins. Alors quand on était invité chez quelqu'un, c'était convenable d'enlever ses sandales et celui qui nous recevait donnait un peu de l'eau pour se laver les pieds. Mais là, c'est le Seigneur Jésus qui va le faire. Alors, on ne va pas détailler cette histoire. Mais cela fait partie des bonnes œuvres aussi de, entre guillemets, se laver les pieds les uns les autres. C'est quelque chose de difficile à faire. Si nous remarquons un frère ou une sœur, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Nous allons peut-être l'aider à corriger une ou deux choses. Parce que peut-être il a pris quelque chose de la poussière du monde dans ses habitudes. Et peut-être lui va le faire avec moi pour autre chose. Donc ça fait partie des bonnes œuvres que nous pouvons faire et que nous comprenons faire lorsque nous intégrons la parole de Dieu. Maintenant, un tout petit peu plus loin, Jean 15, verset
3.
Donc là, c'est la position que nous avons comme croyants. Nous sommes déjà nets, déjà régénérés. Nous sommes dans notre position déjà parfaite pour aller au ciel. Alors que le verset précédent nous parlait de la marche de tous les jours. Il faut toujours bien discerner les deux choses. D'une part, la position, une fois que nous sommes convertis, d'être un enfant de Dieu. Ça, on ne peut pas m'enlever. Et puis la marche de tous les jours où il peut arriver d'avoir des fois des problèmes. Entre guillemets, de se salir les pieds pour une chose. En comprenant bien cette différence, on comprend aussi beaucoup de versets qu'il ne faut pas mélanger. ma position de nouvel homme parfait en Dieu, qui ne pêche pas, comme dit l'apôtre Jean.
Lui dit l'ange de qui cala, monte mon pied à mon pied, ouji kaya kajumo, quoi nzo bubi, umuji mon poste le poil ou wamba.
Et ma vieille nature qui se rappelle de temps en temps à moi et qui aimerait me faire retourner dans des vieilles
habitudes.
Nous revenons dans le psaume 119,
verset
11. Je fais une petite pause pour l'enregistrement. Alors pour que nous puissions réaliser cette marche de tous les jours en nouveauté de vie, il faut faire comme ce psalmiste qui avait caché la parole dans son cœur. Il avait intégré la parole de Dieu au fond de ses pensées. Et il explique pourquoi il a fait ça. Pour ne pas pécher contre Dieu. Si on ne connaît pas bien la parole de Dieu, on aura tendance de faire des péchés dont on n'est même pas des fois conscient. Parfois, la conscience que nous avons nous avertit, ah, c'est pas bien ce que tu fais. Mais la conscience, elle peut être aussi déformée. Un petit mensonge, ce n'est pas grave, par exemple. J'ai un petit peu pris de l'argent ici ou là, mais ce n'est pas beaucoup. Mais si on intègre la parole de Dieu, on va comprendre que ces deux choses ne sont pas bien. Et alors on ne va pas faire ces péchés-là. Encore le verset 9 de
Psaume 119.
Là, nous retournons au jeûne. Et il y a la question, comment est-ce qu'un jeûne va se comporter bien dans son chemin? Là, il est dit un jeune homme. Mais on peut remplacer par jeune femme aussi. Alors la réponse, c'est en prenant garde à la parole de Dieu. Et comme ça, on pourra aussi avoir une marche pure selon Dieu.
Prochain
verset qui nous donne aussi des indications sur la marche de Dieu. Dans les deuxième épître à Corinthiens, chapitre 10, versa Inaï et Inatu.
Il dit
Dans le monde, il y a beaucoup de raisonnements. Beaucoup de théories, de réflexions. Il y en a qui peuvent être bonnes. Mais il y en a qui sont fausses. Et ces faux raisonnements, ils peuvent devenir dominants dans une société ou dans une autre
société.
Même des fois, ces théories ou ces raisonnements, ça vient de l'ennemi. Et parfois, ces raisonnements, cela peut devenir comme des forceresses. On a appris à penser d'une certaine manière et on n'arrive plus à changer. C'est notamment quelque chose que l'on constate quand l'on pratique l'évangélisation. On essaye d'expliquer le salut. Et des fois, les personnes à qui l'on parle, ils ont des raisonnements, ils n'arrivent pas à comprendre le salut. Peut-être qu'ils disent, mais ce n'est pas possible que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est le hasard, c'est le Big Bang. Ou bien ils disent ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu parce qu'il ne perdrait pas, il ne permettrait pas la misère dans le monde. C'est de nouveau un faux raisonnement. Il y en a qui disent ce n'est pas possible que Dieu il ait un fils. Ça c'est l'islam qui dit ça par exemple. C'est un faux raisonnement. Parce que Dieu a un fils et nous le connaissons. Alors il y a beaucoup de différentes théories comme ça. Il y a aussi un raisonnement qui dit le monde il a été fait tout seul il y a des millions et des millions d'années.
Et
il s'est développé tout seul sans Dieu par l'évolution petit à petit. Au début, il y avait des poissons qui après sont devenus des oiseaux. Il y a des reptiles qui sont devenus des mammifères. Après, ils sont devenus des singes. Après, ils sont venus des hommes de caverne qui marchaient comme
ça.
Et après quelques millions d'années, ils ont commencé de se relever. Au début, l'homme il avait de la fourrure comme les animaux. Petit à petit, il l'a perdu, il est devenu comme nous. Ça aussi, c'est un faux raisonnement qui veut éliminer Dieu. Et c'est ce qui est enseigné dans beaucoup d'écoles. Et ce n'est pas facile aussi d'enlever ces raisonnements à nos enfants qui apprennent à l'école. On ne connaît pas tout comment Dieu a fait le monde et comment cela s'est développé il y a des milliers d'années. Mais ces raisonnements qui veulent repousser l'idée d'un Dieu créateur, ils sont faux. Alors, de nouveau, lorsque nous étudions la parole de Dieu, cela nous donne des armes puissantes. Et si nous les connaissons bien, nous pouvons détruire ces raisonnements. pour que l'Esprit puisse agir dans ces personnes qui ont ces raisonnements. Détruire ces forteresses qui les empêchent de venir à la connaissance de Dieu. Et à ce moment-là, ils peuvent, s'ils laissent agir l'Esprit, ils peuvent devenir des croyants. Comme il est dit à la fin du verset
5,
amener leurs pensées captives dans l'obéissance de
Christ.
Il y a aussi des faux raisonnements que des croyants peuvent avoir. Des fausses doctrines qui ont l'apparence d'être vraies. On prend quelques versets et puis on fait toute une théorie de raisonnement. Si on prend les passages dans leur ensemble, on voit que ça ne tient pas. Mais si on sort quelques versets de leur contexte, on peut aussi faire des forteresses à l'apparence chrétienne. Notamment, sont connus pour ça les témoins de Jéhovah. Maintenant, nous allons terminer par quelques indications qui nous encouragent à la façon de lire la Bible. Comment lire la Bible?
Ce
qui est nécessaire pour apprendre à connaître la Bible, c'est la discipline. Si je dis il y avait une petite histoire dessinée dans la Bonne Nouvelle pour les enfants que mes enfants ont lu.
Un
jeune met le réveil le matin. Il veut commencer de lire la Bible.
Mais
il dit, je n'ai pas le temps maintenant, il faut que je me prépare pour aller à l'école. Après il rentre de l'école, il veut dire, je veux lire la Bible, mais d'abord je veux jouer un petit peu. Après il y a les devoirs à faire. Et puis après il y a le souper avec la famille. Après il dit, maintenant je vais lire la Bible. Avant, il voit sur un écran quelque part une émission qu'il aimerait bien
regarder.
Et puis, après, c'est le moment de se coucher. Il dit, maintenant, je vais lire la Bible. Mais il s'endort parce qu'il est fatigué. Alors il dit, ben, tant pis, je vais dormir demain, je vais vraiment lire la Bible. Et ça peut arriver souvent. Nous connaissons que nous sommes non seulement les jeunes, mais nous aussi nous sommes touchés par
ce.
C'est pour ça qu'il faut une discipline.
Une
décision, une volonté, un effort et de la persévérance. Que ça continue. Que chaque jour il y a un moment. Peut-être qu'il faut fixer une heure et un endroit précis dans ma chambre, peut-être le matin, peut-être le soir. Et c'est bien de créer des habitudes pour ça. Parce que si l'on ne se fait pas ces bonnes habitudes, on risque de toujours repousser. Et lorsque nous avons notre Bible à nous, c'est bien de prendre des crayons, par exemple, pour souligner. Alors, dans le résumé, il est dit, par exemple, on veut choisir des couleurs pour différentes choses.
ujumo kwanga sama kalaga mashiri shilanga ni bwani wewe kaye bumenye ni panyi ngakho bobolo kampana ngi kale nje kala kampana panyi ngakho bobolo kampana ngale nje kala kampana yiji kulwe nje kabije
ils disent par exemple le bleu pour l'enseignement
ujumo kwamba ni panji yanga ila kashongi pa mji kale cha lubule bule kabije bitangila jilongesh
le rouge pour Dieu et la gloire
ah panyi ngata uli kale jikuze mbwanzambi ni butumbi bwenda
le vert pour l'espérance
panyi ngata kuje chisonso chibishi mbwa jitekemene
le noir pour le jugement
panyi ngata jikale jifike bijibyenzo bomuje chikondi cha jilumbushi imalo aja kwaji alumbulisha makwa anyi jugement mto kuchungwa
en ce qui me concerne dans ma bible de base j'ai souvent souligné en vert les choses positives et en rouge les choses négatives
mto kwamba makalao aja kubulisha bani me mukandi wa ni mufezi jikala kampanda jikaji we man kujiteka ni jichumbushi bolo kampanda bijibikuvulisha lokasa lokasa
mais chacun peut développer son propre système
kaje mto ya kaje nepanga yendo jimani wendo mushindo jimo kulongolola mukubara kwa mukana za
nous aide à retrouver plus vite les passages
bibi tombulisha kwa boto tu iko feta fondo kasa lokasa mifundo anyi maisha tinu wa kwenza na mujo
et à mettre en avant les versets spéciaux
ne kujiteka kumpala kwa mvenso wa mushingo mukole utimo kuyela
on peut aussi noter dans un agenda ce qui nous stimule
ah kuikala ne kayeke bakuluseke kwenda kufunda bibiku bikutokumoyi
ce que nous voulons retenir
biju kengela kukwaka mumoyi webu kwenda bifunda
ce que nous voulons mettre en pratique
bitu tukene bokwanda kuteka muchenza yi uyayo kubifunda
lorsqu'on a écrit on peut relire plus tard et ça permet de répéter
pas je mujifungile uju mwakala wenda kubala wenda ubala kunyima panka yebe kakesh kakesh
et quand on regarde les pages d'avant on peut voir est-ce que j'ai fait des progrès
nuju mukutangile mabisha kajumba leto no mabisha jalo
Voilà quelques indications, nous allons nous arrêter.
Et
nous continuerons demain à nous encourager pour lire la Bible.
C'est ça qui est bon.
Est-ce que vous auriez des désirs pour cette année?
Nous venons de dire que vous avez dit que vous avez
dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez d